Chapitre 20. Petit déjeuner à Manala.
Vous pouvez m'appeler Dame Alice,
dit l'étrange petite femme lorsqu'elle se leva à l'aube, étouffant ses bâillements avec un poing. À voir sa raideur, on devinait qu'elle n'avait pas l'habitude de dormir à la belle étoile. De plus, l'âne aurait juré qu'elle s'était réveillée chaque fois qu'il avait pris un tour de garde. Endormis, les gens respiraient d'une façon particulière. Bien entendu, les femmes vêtues de soie n'étaient pas familières de l'inconfort et des épreuves. Il ne crut pas au nom qu'elle leur donna, ni à l'authenticité de la bague au serpent qu'elle leur montra. Surtout après qu'elle l'eut remise dans sa sacoche de ceinture, en annonçant que personne, pas même d'autres sœurs, ne devait savoir qu'elle était une Aes Sedai. Si les sœurs voyageaient souvent incognito, abusant ceux qui ne savaient pas reconnaître un visage sans âge, l'âne n'était pas née de la dernière pluie. D'accord, une Aes Sedai pouvait être jeune. Mais toutes, sans exception, manifestaient une sérénité qu'elle conservait contre vents et marées. La colère ne leur était pas étrangère, mais il s'agissait toujours d'une colère froide. Quand la douche avait cessé, l'âne avait aperçu le visage de Dame Alice. Sur le coup, il n'avait pas attaché d'importance à son expression. Celle d'une gamine ravie d'avoir joué un mauvais tour à quelqu'un, puis un peu déçue parce que ça n'avait pas marché aussi bien que prévu. Les Aes Sedai pouvaient être beaucoup de choses, au point de faire passer les autres femmes pour des créatures simples, mais elle ne se montrait jamais enfantine. Quand il l'avait repérée, derrière la caravane de marchands entourée de gardes, Boukama avait avancé une raison susceptible d'expliquer pourquoi une femme pouvait suivre trois hommes. Lorsque six escrimeurs ne parvenaient pas à abattre un homme en plein jour, une seule tueuse avait une chance d'y parvenir au cœur de la nuit. Boukama ne visait pas directement Edain, bien entendu. Si elle avait pris les choses en main, l'âne aurait déjà été mort et enterré. Mais elle avait pu envoyer une femme à ses trousses, pensant qu'il se méfierait moins. En réalité, seul un crétin jugeait les femmes moins dangereuses que les hommes. Mais cette dame avait une nette tendance à prendre les mâles pour des imbéciles, sur les sujets de ce genre. Pendant la nuit, en dépit de ses réticences originelles, Boukama n'avait pas caché sa désapprobation après que l'âne eût refusé de prêter serment à la dame. Pourtant, la déclaration du vétéran liait les trois hommes à Alice, du moins jusqu'à Tchatchin. De plus, elle leur avait remis de l'argent. Et toujours selon Boukama, elle ignorait sûrement que c'était une insulte dans de telles circonstances. Pour l'heure, le vieux guerrier marmonnait dans sa barbe tout en sellant son hongre noir, un cheval, disait-il, qui n'arrivait pas au sabot de Lance du Soleil. Une outrance, même pour un râleur comme Boukama. Même s'il n'était pas encore entraîné pour la guerre, l'équidé était une bête de qualité, joliment bâtie et dotée d'une excellente pointe de vitesse.
Aes Sedai ou non,
grommela Boukama en serrant une sangle.
Un homme digne de ce nom respecte une certaine étiquette.
Laisse tomber, mon ami,
soupira l'âne. Autant cracher en l'air, bien entendu.
C'est insultant pour elle, l'âne, et dévalorisant pour toi. Un homme d'honneur protège tous ceux qui en ont besoin, les enfants avant tout, et les femmes avant les hommes. Jure de la défendre, pour le bien de ton honneur.
L'âne soupira de plus belle. Le connaissant, il savait que Boukama allait lui rebattre les oreilles avec cette histoire, jusqu'à Tchatchin. Pourtant, il aurait dû comprendre. Si la femme était pour de bon une Aes Sedai, l'âne refusait d'être lié à elle. Boukama avait déjà établi une sorte de lien, et s'il y ajoutait sa parole d'honneur, qui savait où ça pouvait conduire? Si elle ne mentait pas, elle était peut-être en quête d'un champion. Rain attendit que la femme ait fini de se brosser les cheveux, assis sur sa selle posée à même le sol, puis il la gratifia d'une profonde révérence qui fit teinter toutes ses clochettes.
« Une belle matinée, madame, » murmura-t-il, « même si aucun lever de soleil ne peut égaler la troublante splendeur de vos yeux. »
Se demandant s'il n'était pas allé un peu trop fort, Rain dévisagea Dame Alice pour voir si elle était offensée.
« Eh bien, puis-je sceller votre jument, gentille dame ?»
Aussi obséquieux qu'un valet dans un salon de réception.
« Mais oui, bien sûr, »
répondit Dame Alice avec un sourire chaleureux.
« Quelle galante initiative, Rain !»
Elle suivit son chevalier servant pour l'observer, tandis qu'il scellait la jument. Non, pour continuer à se faire compter fleurette, sembla-t-il. Dame Alice avait un très joli visage, et bien que son comportement fût juvénile, le corps que dissimulait sa robe de soie bleue n'évoquait en rien celui d'une enfant. Cela dit, Rain avait raison. L'âne avait déjà vu une femme du Kairien dans le plus simple appareil, plusieurs femmes même, et elles avaient toujours tenté de l'entraîner dans des intrigues complexes et périlleuses. Lors d'un séjour d'une dizaine de jours dans le sud du pays, par exemple, il avait failli se faire tuer six fois, et se retrouver marié à deux occasions. Une Aes Sedai, éventuellement, est originaire du Kairien. Impossible d'imaginer une pire combinaison. Bizarrement, Dame Alice ne s'insurgea pas quand elle dut chevaucher, sans avoir pris l'ombre d'un petit déjeuner. Mais au bout d'une heure, quand les quatre voyageurs atteignirent Manala, un assez grand village, elle ordonna une halte. Et le verbe « ordonner » n'était pas une exagération.
« Un bon repas chaud nous aidera à mieux passer la journée »,
décrita-t-elle, bien droite sur sa selle, comme si elle défiait ses compagnons de la contredire. Un comportement d'Aes Sedai, oui. Mais n'importe quelle femme aurait pu avoir le même.
« Je veux arriver le plus vite possible à Tchatchin, et je refuse que vous me retardiez en tombant d'inanition. Tout ça pour me montrer que vous êtes de vrais durs. »
Rhine fut le seul à soutenir le regard de la jeune femme. Avec un sourire gêné, il semblait essayer de décider s'il était agacé ou impressionné.
« Madame, » dit Bukama, les yeux humblement baissés, « nous avions prévu de nous restaurer ici. »
Il n'ajouta pas que, sans elle, ils auraient dîné à Manala la veille et dormi dans des lits confortables. Mais si elle les avait suivis jusqu'au village, qu'est-ce que ça aurait prouvé? L'attirer dans la forêt l'avait forcé à se dévoiler. Avec sa multitude de maisons de pierre aux toits de tuiles rouges ou vertes, Manala n'était pas loin de mériter le nom de ville. Alors qu'une vingtaine de rues sillonnaient en tous sens deux basses collines, les trois auberges du Cru, bâties devant une grande place communale, se nichaient dans le creux, entre les deux élévations. Sur la route, devant les établissements, les conducteurs de deux caravanes de marchands attelaient leurs chevaux au chariot, sous l'œil attentif de leur patron déjà monté en selle. Plus matinale, une caravane d'une trentaine de chariots était déjà en route vers l'est. Au lieu de surveiller les alentours, comme c'était leur devoir, plusieurs membres de l'escorte jetaient de fréquents coups d'œil derrière eux. Les festivités de Beltin battaient leur plein à Manala. Les épreuves d'adresse, de force et de vitesse viendraient plus tard. Pour l'instant, les nouveaux couples mariés exécutaient la danse rituelle autour du poteau du printemps, planté au milieu de la place communale. Le torse bien droit, même si le bas de leur corps gambillait joyeusement, les hommes et les femmes enroulaient autour du poteau haut de 7 pieds de longs rubans de lin teinté. Non loin de là, de vieilles personnes et des adultes célibataires dansaient d'une manière bien plus échevelée au son des violons, des flûtes et d'une multitude de tambours de toutes les tailles. Bien entendu, tout ce petit monde était sur son 31. Les femmes en chemisier et pantalons larges blancs et les hommes en redingotes de couleurs vives, richement brodées. Si les danseurs occupaient presque toute la place communale, toute la population de Manala n'y était pas rassemblée. Des dizaines de gens allaient et venaient dans les rues, vaquant leurs occupations, toutes liées à la préparation des réjouissances à venir et du festin qui les conclurait. Du miel encore au coin des lèvres, souvenir d'un délicieux petit déjeuner de fête, des enfants jouaient un peu partout dans le village. Les plus âgés se chargeaient d'alimenter les petits feux de Beltin, qui brûlaient surtout le périmètre de la place. En principe, sauter au-dessus de ces brasiers consumait le mauvais sort accumulé, depuis les précédentes fêtes de Beltin. Selon l'âne, peu de villageois devaient croire en cette antique tradition. Pour sa part, il ne doutait pas de l'existence de la chance et de la malchance. Dans la flétrissure, survivre ou mourir était moins une affaire d'habileté ou de force que de chance pure et simple. Frappant contraste avec l'allégresse ambiante, le long de la route, 6 pieux exposaient de monstrueuses têtes de trolloques à museau de loup, à cornes de bélier ou à bec d'aigle. À première vue, ces répugnants vestiges ne devaient pas avoir plus de 2 ou 3 jours. Mais avec la fraîcheur persistante qui ralentissait la décomposition, empêchant également la naissance des mouches, c'était très difficile à dire. C'était donc pour ça que tous les danseurs portaient une épée, les femmes ayant un long couteau glissé dans la ceinture. Ne sentant aucune odeur de bois brûlé, l'âne supposa qu'il s'était agi d'un raid mineur et infructueux. Dame Alice immobilisa sa jument devant les pieux et regarda longuement les ignobles trophées. Aucune peur ne s'afficha sur son visage, et pas davantage de dégoût. Devant tant d'impassibilité, l'âne aurait presque pu croire qu'il voyageait vraiment, en compagnie d'une Aes Sedai.
« J'aurais détesté affronter ces monstres avec une épée pour toute arme, »
souffla-t-elle.
« Quel courage il doit falloir !»«
Vous avez combattu les trolloques ?»
demanda l'âne, stupéfait. Bukama et Rhine échangèrent des regards étonnés.
« Oui, »
répondit Dame Alice, comme si ce mot lui avait échappé avant qu'elle ait pu réfléchir à sa réponse.
« Où, si je puis me permettre de poser la question ?»
Très peu de gens du Sud avaient vu l'ombre d'un trolloque dans leur vie. Certains pensaient même que c'était des croque-mitaines, inventées pour terrifier les enfants. Dame Alice se rembrunit.
« Maître Lan, on trouve des créatures de ténèbres, en des lieux auxquels vous ne penseriez même pas. Rhine, si vous ne choisissiez une auberge ?
Un ordre donné avec le sourire, comme si cette fichue bonne femme pensait commander le petit groupe. À la manière dont Rhine s'empressa d'obéir, il le pensait aussi. La lame du laboureur ressemblait davantage à un fortin qu'à une auberge. Alors que le rez-de-chaussée était muni de meurtrières et non de fenêtres, l'établissement arborait en guise d'enseigne une épée à deux mains, le genre que les paysans transportaient sur leurs charrues, accrochée la pointe en bas, au-dessus de la porte inhabituellement épaisse. Si près de la flétrissure, les auberges servaient souvent de bastion en cas d'attaque, tout comme une bonne partie des autres maisons. Voyant de nouveaux clients attacher leurs montures devant son établissement, l'aubergiste accourut, abandonnant la place communale où elle observait les danseurs. Vêtue d'un chemisier imprimé, des fleurs jaunes et rouges, et d'un pantalon large bleu et bordeaux, cette femme aux cheveux grisonnants fit la moue, lorsqu'elle vit que deux Malkieri prétendaient entrer dans son fief. Mais elle rayonna dès qu'elle aperçut Damalice, qui passa immédiatement commande de son petit déjeuner.
« Je suis maîtresse Tomichi, »
se présenta la femme.
« Et je me ferai un plaisir de vous satisfaire. »
La voyageuse n'avait pas décliné son identité, mais ses manières et sa robe ne laissaient pas de doute sur son appartenance à la noblesse.
« Voulez-vous aussi des chambres pour votre suite et vous ?»«
Non, nous ne resterons pas longtemps. »
Passer pour un membre d'une suite n'offensa pas Rhine, qui parut accepter ce mot aussi aisément qu'Alice. Bukama, en revanche, en devint encore plus maussade que d'habitude. Il ne fit aucun commentaire, car ce n'était pas le moment, et n'en ferait peut-être jamais, à cause de son serment. Mais l'âne, pour sa part, décida d'en toucher quelques mots à Alice dès qu'il en aurait l'occasion. Il y avait des limites au nombre d'affronts qu'un homme pouvait encaisser en silence. Comme ses compagnons, il commanda du pain noir, de la bouillie d'avoine agrémentée de lamelles de jambon et une infusion très forte. Alice ne les ayant pas invités à partager sa table, les trois hommes eurent l'embarras du choix pour en sélectionner une, puisque la salle commune était vide. Maîtresse Tomichi fit elle-même le service, par souci, expliqua-t-elle, de n'arracher personne aux festivités. De fait, dès que la note fut réglée, elle repartit y assister, et peut-être y participer. Profitant d'une intimité inattendue, les trois Malkieri discutèrent de l'étrange petite bonne femme, qui leur collait désormais au basque. Ou plutôt, ils se disputèrent à son sujet, mais assez bas pour qu'elle ne les entende pas. Convaincu qu'Alice était bel et bien une Aes Sedai, Rhine militait pour qu'on ne lui pose aucune question. Avec les Aes Sedai, la curiosité pouvait être un défaut dangereux, et de toute façon, on aimait rarement les réponses, quand on en obtenait. Bukama resta ferme sur sa position. Si elle était vraiment ce qu'elle disait, il fallait absolument découvrir ce qu'elle leur voulait, car s'impliquer dans les plans d'une de ces femmes pouvait avoir des conséquences tragiques. Un homme pouvait par exemple se faire des ennemis sans même le savoir, ou être sacrifié à son insu, tout ça au nom de plans mystérieux et pervers. Miséricordieux, l'âne s'abstint de mentionner que c'était Bukama et lui seul qui les avait poussés dans ce piège. Pour sa part, il ne parvenait pas à croire qu'il s'agissait d'une sœur. Alice, pour lui, était une naturelle chargée de le surveiller. Une espionne appointée par Edain, bien sûr, même s'il ne prononça pas une seule fois ce nom. En femme avisée, Edain avait sûrement des indicateurs et des espions dans toutes les terres frontalières. Il semblait étrange qu'une naturelle à sa solde ait attendu l'âne à Kanoum, mais après tout, il y avait bien eu les situeurs. Et cela, qui d'autre aurait pu les lui envoyer ?
« Tu as beau dire, je campe sur mes positions, » conclut Bukama. « Au fait, où est-elle passée ?»
L'assiette vide d'Alice était toujours sur la table où la jeune femme avait mangé. Mais de la dame elle-même, il n'y avait plus trace nulle part. Malgré lui, l'âne enfonça les sourcils d'admiration consternée. Elle s'était éclipsée sans faire un bruit. Rhine se leva, faisant racler son banc sur le sol, et alla jeter un coup d'œil par une meurtrière.
« Son cheval est toujours là, » annonça-t-il. « Elle est peut-être simplement aux toilettes. »
L'âne fit la moue devant tant de vulgarité. Certains sujets pouvaient être évoqués librement, et d'autres pas. Rhine joua avec une de ses nattes, puis lui flanqua une pichenette, qui fit teinter toutes les clochettes.
« Je propose de laisser sur la table l'argent qu'elle nous a donné, et de filer avant son retour. »«
Tu peux partir, » dit l'âne.
« Bukama s'est engagé, et je me sens lié par son serment. »
« Ce serait encore mieux. » « Si tu t'étais engagé aussi, »
marmonna le vétéran. Rhine fit la moue.
« Si tu restes, je reste aussi. »
Alice était peut-être simplement allée jeter un coup d'œil aux festivités. Chargeant Bukama de l'attendre à l'auberge, l'âne sortit avec Rhine pour en avoir le cœur net. Ils ne virent pas leur compagne de voyage parmi les danseurs,
et pas davantage au milieu des spectateurs. Avec sa robe de soie, il l'aurait repéré de loin, dans une foule où la laine et le lin dominaient. Certaines femmes invitèrent les deux guerriers à danser. Rhine sourit au plus joli, ce qui n'étonna pas son ami. Il aurait pris le temps de conter fleurette à une belle fille, alors même que 10 trolloques fondaient sur lui. L'âne l'arracha à la tentation, en lui demandant d'aller voir si Alice n'était pas sur la colline sud, parmi les maisons. Pour sa part, il se chargea de la colline nord, celle où se dressait l'auberge. Si la naturelle rencontrait quelqu'un, peut-être pour préparer un sale coup, il voulait le savoir. Pour le moment, Alice n'avait pas tenté de le tuer. Mais rien ne prouvait qu'Edain le voulait vivant. L'âne découvrit la sœur dans une rue quasiment déserte, à mi-chemin du sommet de la colline. Elle était campée devant une mince jeune femme, au chemisier et au pantalon bouffant, brodé de rouge et de jaune. Des motifs aussi emberlificotés que ceux de la robe d'équitation d'Alice. En matière d'ornement, les Candoriens avaient aussi mauvais goût que les Gandins du Sud. Marchant à pas de loup, l'âne s'arrêta lorsqu'il fut assez près pour capter la conversation.
« Une famille Saera vit à 3 rues d'ici, madame, »
dit la jeune femme en tendant un bras.
« Et je crois bien qu'il y en a une aussi sur l'autre colline. Mais j'ignore s'il y a une Aven dans le lot. « Votre aide m'a été très précieuse, maîtresse Marichna, »
dit Alice, apparemment sincère.
« Merci beaucoup. »
Après une autre révérence, maîtresse Marichna se détourna et s'éloigna. Alice la regarda partir, attendit qu'elle ne puisse plus l'entendre, et lança d'une voix dure.
« Maître Lan, dois-je vous montrer comment on punit les espions à la Tour Blanche ?»
Le Malkyrie faillit sursauter. Pour commencer, elle avait réussi à quitter la salle commune sans qu'il l'entende. Et maintenant, elle l'avait repéré, alors qu'il s'était efforcé de ne faire aucun bruit. Remarquable, vraiment. Au fond, c'était peut-être bien une Aes Sedai. Et dans ce cas, elle devait vouloir prendre Rhine pour champion.
« J'aimerais mieux pas, » répondit l'âne. « Nous avons tous des affaires urgentes à Chachin, si j'ai bien compris. Si je vous aide à chercher Aven Saera, nous en aurons peut-être terminé plus vite. »
Alice se retourna et regarda le Malkyrie de toute sa hauteur, en se hissant sur la pointe des pieds. « Non, » décida l'âne. Ce n'était pas une sœur, malgré son visage autoritaire. Il avait vu des Aes Sedai plus petites dominer une assemblée d'hommes qui ignoraient leur identité, et sans avoir besoin de se grandir.
« Oubliez que vous avez entendu ce nom, l'âne. Il n'est jamais judicieux de fourrer son nez dans les affaires d'une Aes Sedai. À présent, vous pouvez vous retirer. Mais soyez prêts à partir dès que je reviendrai. Si les mâles qui retiennent la parole donnée, comme je me le suis laissé dire. »
Sur cette insulte, Alice s'enfuit dans la direction indiquée par la villageoise. Par la lumière, la langue de cette femme était une lame tranchante. De retour à l'auberge, quand il raconta à Boukama ce qu'il avait appris, le vétéran rayonna. Enfin, il parut un peu moins maussade. Et pour lui, ça revenait au même.
Elle veut peut-être tout bêtement que nous la protégions, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé cette femme.
Ça n'explique pas pourquoi elle nous a suivis toute une journée, dit l'âne, en se rasseyant devant son petit déjeuner. Tant qu'à faire, autant le terminer. Et ne dis surtout pas qu'elle avait peur de nous aborder. Cette femme est aussi facile à effrayer que toi. Et encore.
Boukama n'eut rien à objecter à ça.